Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en France et vous vous demandez comment gérer votre bien depuis l'étranger? Pour cela, j'ai trouvé la solution idéale grâce à Flatlocker, une agence immobilière 100% digitale. Leur concept a déjà séduit de nombreux expatriés puisqu'ils travaillent déjà avec bon nombre d'entre eux un peu partout dans le monde. Flatlocker, c'est quoi? C'est l'agence immobilière leader de la gestion locative en ligne. Le développement de leur plateforme permet aux propriétaires de gérer et suivre l'évolution de leurs biens à distance à un tarif plus avantageux qu'avec une agence de quartier. Sans oublier que Flatlocker est 3 fois plus rapide qu'une agence de quartier car les logements sont loués exclusivement en ligne. Le fonctionnement de Flatlocker est 100% digital. Vous pourrez suivre toute l'évolution de votre dossier, de la recherche de locataires à la signature du bail, directement depuis les États-Unis. Profitez dès maintenant d'un mois de gestion offert avec le code LESAMÉRICAINS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des États-Unis. Sur ce podcast, nous irons à la rencontre de francophones qui ont franchi le pas et se sont installés aux US. Qu'ils soient partis pour monter leur business, pour un job, dans le cadre d'un projet familial ou même sans projet du tout, ils nous parleront de leur parcours et des opportunités qui se sont offertes à eux. Cette semaine, je vous emmène à Hollywood à la rencontre de Martin et de son univers, le cinéma. Martin nous explique une des raisons qui le poussera à quitter la France, le désir de fonder une famille avec son mari. Il nous parlera de l'homoparentalité aux US et des différences avec la France, mais aussi de ses débuts professionnels à Hollywood avec comme seul mot d'ordre, la débrouille. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire qui tu es?
Oui, absolument. Donc voilà, je m'appelle Martin, j'ai 38 ans, je viens de France. Alors, j'ai passé 10 ans à Paris, mais j'ai habité à Montpellier, à Grenoble, c'est un petit peu le bordel. Je me considère peut-être un peu plus parisien que les parisiens voudraient me considérer, donc je sais pas. Ça fait 5 ans qu'on est installé à Santa Monica, Los Angeles, en Californie. Depuis que je suis aux États-Unis, je travaille sur les tournages. Je suis habilleur de plateau sur des films ou des séries, donc c'est cool.
Bon, bah en tout cas, bienvenue. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast.
Merci
d'avoir encore accepté cette invitation. Donc, alors toi, Martin, donc tu habites Paris en fait avant de t'envoler pour les États-Unis. À Paris, tu y rencontres l'homme qui deviendra ton mari. Vous y vivez pendant à peu près 10 ans à Paris avant de vous envoler donc vers les États-Unis où vous ayez été installé maintenant depuis 5 ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né le projet justement de partir aux États-Unis?
Alors, en fait, c'est très simple. Plein d'opportunités, plein de moments de vie aussi qui se sont réunis pour que ce soit en fait le moment, il y a 5 ans, pour nous de partir. Pour John, ça faisait 12 ans qu'il était en France. Donc, c'était important pour lui de se rapprocher de sa famille. Il est aussi journaliste et critique, donc quand on est anglophone, journaliste et critique, au bout d'un moment, on est assez limité dans sa carrière en France. Et je pense qu'il avait exploré toutes les possibilités aussi, donc il y avait aussi ce désir de carrière qui était important. Et de l'autre côté, il y avait aussi 2 autres choses qui sont devenues déterminantes. Le désir de fonder une famille, donc d'être parent, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, même si c'est plus ou moins légal depuis 2013, c'est encore très dur de devenir parent quand on est un couple de même sexe, d'hommes. L'homoparentalité aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très, qui est absolument normalisé, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment depuis plus d'une quarantaine d'années aujourd'hui, alors que
Ouais.
en France, on sera encore partie des bêta-testeurs, on n'avait pas trop envie d'avoir cette étiquette.
Bien sûr.
Et puis aussi la fatigue hein, qui est là avec hein, de la manif pour tous.
Ouais.
On est en 2013, 2014, donc ça fait 2-3 ans qu'on a des manifs de partout dans Paris, quotidiennement. Et c'est épuisant.
Ouais,
Donc,
c'est un peu les éléments déclencheurs, quoi. C'était ça qui a fait pencher pour vous la balance. Alors toi, à ce moment-là, donc t'es en poste, hein, et puis au moment de partir, bon bah il faut prendre une décision. Comment t'as fait? Est-ce que t'as démissionné? Comment ça s'est passé?
c'était vraiment c'était voilà, non, c'était un moment assez particulier hein. Donc déjà avant de partir c'est très important de savoir sur quel visa on part. Et nous,
Bien
c'est quelque
sûr.
chose à laquelle on est super habitué parce que bah, John, il est américain, donc les 12 ans qu'il a passé en France, les 10 ans qu'il a passé avec moi en France, c'est aussi constamment travailler sur le visa. Et on sait à quel point c'est important de préparer son départ. Donc, on est mariés légalement depuis, à l'époque, depuis presque 2 ans. Et c'est important 2 ans, parce que 2 ans, c'est la frontière à laquelle on peut accéder directement à une green card de 10 ans. En
D'accord.
dessous de 2 ans de mariage, on a une green card qui est provisoire.
OK.
C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 ans pour confirmer qu'on est toujours marié, et après, ça devient automatiquement une carte de 10 ans. Mais quoi qu'il
D'accord.
en soit, on est éligible pour la green card. On est aussi
OK.
éligible pour une autre raison. Le 26 juin 2013, la Cour suprême des États-Unis a voté contre la DOMA, donc ce qui s'appelait la Defense of Marriage Act, qui finalement autorise les couples homosexuels mariés d'obtenir les droits fédéraux. Et dans les droits fédéraux, on a les droits à l'immigration. Donc nous, avant cette date, on ne pouvait pas vivre ensemble aux États-Unis.
Ok.
Mais après cette date, c'est devenu légal. Donc, ça faisait aussi partie de ce timing-là.
Ouais, ça tombait parfaitement pour vous, en fait.
Exactement. Et tout s'est réuni, en fait, sur une opportunité. John a trouvé un travail. Il était embauché. Et comme son travail lui demandait, en fait, de venir avec moins d'un mois de préavis, c'est technique. Mais moi, ça m'a permis de faire une demande de visa d'urgence.
D'accord. Et donc après ce préavis, donc toi, comment ça s'est passé au boulot? Est-ce
Oui,
que
j'ai
ouais,
pas
parce
du
que
tout
ça
répondu à ta
c'est
question.
ouais, non, mais ça c'est important parce que c'est vrai quand on part vers un pays pour suivre son conjoint, parce que c'est quand même ton cas. Comment se passe en fait le départ de ton poste? Est-ce que tu démissionnes puisque tu suis ton conjoint en fait? Donc comment ça s'est passé?
Alors, j'ai même pas, à l'époque, on n'a même pas pensé à cette stratégie de suivre le conjoint. Et c'était peut-être aussi parce qu'on était formaté dans le fait qu'on est un couple gay, que, encore une fois, c'est que 5 ans. Il n'y a que 5 ans qui sont passés, mais 5 ans dans l'histoire des droits des homos, c'est genre un siècle. Et à l'époque, je crois qu'on n'a même pas pensé au fait de suivre un conjoint m'aurait donné la possibilité de démissionner, d'avoir les droits au chômage. C'est quelque chose auquel j'ai même pas pensé à l'époque. L'idée, c'est de faire une rupture conventionnelle, chose
D'accord.
qui est toujours très délicate,
Ouais, tout à
surtout
fait.
quand on s'entend bien avec sa boîte. Sachant qu'une démission m'aurait supprimé les droits au chômage, et comme je suis cadre, ça m'aurait fait traîner pendant des mois de manière misérable dans un boulot dans lequel j'avais plus envie d'être.
Ouais.
Donc j'arrive à faire une rupture conventionnelle. Ça s'est fait aussi par opportunité. On était en plein bouclage d'année fiscale. J'étais en train de négocier mes primes. Ça n'a pas marché.
D'accord.
Et j'ai pété un plomb. Et eux ont eu peur que je me mette en congé maladie.
En congé maladie, ouais. Alors,
Donc, du coup, j'ai sauté sur l'opportunité, j'ai obtenu cette
super,
rupture
hein.
conventionnelle.
Tu pars sereinement en fait hein, quand ça se passe comme ça. J'imagine qu'on se sent bien aussi, quoi. La rupture conventionnelle,
Ouais.
c'est la porte de
Non, ouais,
sortie, ouais, plutôt
je me suis
agréable.
super,
Ouais.
super bien entendu avec mes boss. J'ai gardé des super contacts avec eux, donc ça, c'est génial.
Ouais.
Ensuite, du coup, je m'inscris au chômage, chose que j'avais jamais fait avant. Et là, je me rends compte à quel point c'est compliqué. Et l'idée était simple, hein, c'est d'activer mes droits pour pouvoir les suspendre
Ok.
avant mon départ, histoire d'avoir un coussin de sécurité,
Bien
c'est-à-dire que
sûr.
si on doit retourner en France dans les 2 prochaines années,
Bien sûr.
on a 2 ans pour activer nos droits.
Ouais, tout à fait, ouais. Alors, justement, moi, j'ai une question par rapport à votre départ, parce que vous étiez tous les deux donc en France avec ton mari, qui lui parle parfaitement français, puisqu'il a quand même passé 12 ans en France. Alors, tu m'as dit qu'il y avait un désir de se rapprocher de la famille à Dijon, mais aussi qu'il y avait cette belle opportunité professionnelle, et puis ce désir de vraiment fonder une famille qui serait, comme vous voyez, plus simple, en fait, ici aux États-Unis. Mais est-ce que vous aviez pensé également à faire des démarches côté français? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, en fait, peut-être pour John, d'avoir la nationalité française et puis de... Est-ce que vous y avez
Alors,
pensé?
bien sûr, on a postulé pour la nationalité française. Les délais administratifs ont duré tellement longtemps, en fait, que le dossier a finalement été consulté avec plus d'un an de délai. Donc, tous les papiers étaient périmés et on était déjà aux États-Unis, donc
Ouais.
c'était plus possible. En fait, oui, les délais administratifs français ne nous ont pas permis de demander la double nationalité. Mais on a essayé,
D'accord.
on a essayé.
OK.
Au niveau de la parentalité aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, même si les couples homo ont le droit d'adopter, c'est encore presque complètement impossible. Il y a énormément de discrimination au niveau des autorisations et des process d'adoption en France. Et en fait, je crois qu'il y avait un article en 2018, faut que j'ai pas trouvé d'autres articles plus récents, mais en 2018, il n'y avait toujours pas eu de couple homo qui avait réussi à adopter.
En 2018.
En 2018, alors que c'est légal depuis 2013, tu as des adoptions. Quelqu'un va adopter l'enfant de son conjoint
Oui.
ou c'est une coparentalité avec d'autres structures, mais l'adoption de la manière dont on l'imagine, c'est-à-dire que tu fais une demande d'agrément et tu passes par le système national, tout est fait en fait pour que les couples homo soient toujours en bas de la liste. Donc en fait, c'est presque impossible. Les adoptions internationales sont presque impossibles aussi.
D'accord.
Aujourd'hui,
Pour
pour
les
les
couples homo
homos,
uniquement.
ouais. Pour les couples homos, ou
Ouais.
même lesbiennes.
Même, ok.
Au niveau de la procréation médicalement assistée,
Ouais.
c'est toujours pas appliqué pour les femmes. Donc les femmes célibataires ou femmes lesbiennes en couple, on attend une deuxième réécriture de loi qui était prévue pour cet été, mais c'est toujours illégal, donc il faut toujours aller dans les pays européens. Pour nous, quand on peut pas faire de PMA, c'est ce qu'on appelle la gestation par autrui, la GPA, qui est toujours interdite en France, et d'ailleurs elle est interdite aussi pour les Français qui la font dans un autre pays, ce qui est assez particulier.
D'accord. Ouais.
Donc, comme on dit en anglais, il y a beaucoup de red tape, il y a beaucoup de choses qui font que c'est impossible. La
Bien sûr.
loi, le droit n'est pas avec nous.
Ouais, bien sûr.
Alors, ça ne veut pas dire que les familles homoparentales n'existent pas, c'est juste que c'est extrêmement compliqué et c'est beaucoup plus cher, du coup.
D'accord. Alors, quelles sont les différences, voilà, justement, avec la Californie? Comment ça se passe, comment ça se passe à Los Angeles, en Californie, voilà, pour vous, si vous êtes dans une démarche de GPA ou d'adoption, comment ça se passe?
Alors, en Californie, tout est légal, est extrêmement bien réglementé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a les lois californiennes, les lois fédérales, et depuis justement la fin de la DOMA, donc Defense of Marriage Act. Donc depuis juin 2013, le fait que la DOMA a été annulée par la Cour suprême. On va avoir des droits familiaux à la hauteur d'un État qui vont devoir être reconnus dans tous les autres États. Donc même si, et là encore, je vais dire des bêtises, mais imaginons que dans l'État de l'Utah, en l'Utah, nous, on n'a pas le droit d'adopter. L'adoption n'est pas ouverte aux couples homo. Et encore une fois, je dis certainement des bêtises. Il faut que je vérifie, ça se trouve, c'est légal. Ça ne t'empêche pas d'adopter en Californie et ensuite, ils doivent reconnaître ta famille comme étant légale.
Très bien.
Donc en soi, c'est légal de partout, dans
D'accord,
tous les
oui.
États-Unis.
Ok.
L'adoption est légale. La GPA, la gestation par autrui, est légale et c'est hyper bien géré par l'État.
Ok.
Il y a vraiment tout un process. Enfin, ça n'a rien à voir avec la diabolisation de ce qu'on va voir en France, dans les médias, où on te montre les fermes de femmes en Inde. Enfin, ça n'a rien à voir. On est dans un pays moderne, avec des technologies modernes, des droits de l'homme et des droits de femmes, enfin, des droits humains et des process intelligents. Enfin,
Ouais, bien sûr. Et en termes de congés, est-ce que, par exemple, des congés parentaux, des choses comme ça, est-ce que ça existe en Californie?
Ouais.
Est-ce que John et toi, vous auriez le même nombre de congés? Comment ça se passe, hein?
Alors, ce qui est génial en Californie, on a le congé parental. En fait, c'est pas vraiment un congé parental en soi, c'est la possibilité de prendre un congé pour s'occuper de quelqu'un dans ta famille.
Ok.
Donc, c'est ce qui va pallier en fait au congé parental. Le congé parental est le même que tu sois un homme, une femme, que tu sois deux hommes, deux femmes. Bien sûr, pour une femme, tu vas pouvoir avoir un congé prolongé médical s'il y a besoin. Et je connais pas la durée, mais c'est assez conséquent. C'est presque 2 mois.
Ok.
Voilà, donc c'est là aussi par rapport à la France en fait.
Ouais.
On a plus de droits sociaux.
T'as pas justement le sentiment en tant que minorité, d'avoir plus de droits finalement ici aux États-Unis, en Californie, comparé à la France?
Ah non, si. Alors, ensuite, peut-être que dans les faits, je me trompe. Peut-être qu'il y a toujours des détails,
Oui.
surtout au niveau des lois, de la protection du droit du travail. On va certainement trouver certaines applications dans lesquelles le droit français va offrir plus de droits. Et encore, j'en
Ouais.
suis même pas sûr. En termes de droits familiaux, c'est indéniable. On a
Ouais.
beaucoup plus de droits en Californie et aux États-Unis. Alors, chaque semaine, on est constamment attaqué par l'État fédéral. On est constamment attaqué par Pence et par Trump. Mais on a une armée de juristes qui nous protègent.
Qui essaie de vous enlever vos droits, c'est bien ça?
Voilà, donc on a Trump essaye, mais de toute façon, tous les droits de toutes les minorités,
Ouais, tout
et
à
le droit
fait.
des immigrés également, je pense que beaucoup de personnes que tu rencontres vont t'en parler. Enfin, c'est en termes de gestion de visa, c'est
Ouais.
extrêmement compliqué, très incertain avec Trump.
Tout à fait.
Mais pour le moment, on a plus de droits qu'en France.
Ouais. En tout cas, c'est super pour vous deux parce que vous avez enfin la possibilité de fonder une famille comme vous le souhaitez. Et ça c'est tout ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel couple. Donc ça c'est vraiment génial.
Merci.
En Californie, est-ce que tu dirais pas finalement qu'ils sont un peu plus un état un peu plus tolérant vis-à-vis de la communauté LGBT notamment, quelle perception tu as des Californiens vis-à-vis de ça?
Alors, c'est très difficile de faire une généralisation d'un État. Et d'ailleurs, c'est la même chose en France. Hein. Si on est à Paris, on va pas forcément avoir le même retour que dans une petite ville en région. Mais la perception, en tout cas, si on peut comparer ce qui est comparable, donc c'est la vie urbaine. Si on peut comparer Paris et Los Angeles, moi je trouve que ouais, Los Angeles, c'est une ville complètement plus tolérante, absolument beaucoup plus tolérante que Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc comme on est dans on ça fait un petit moment qu'on est dans un projet parental, donc on a aussi commencé à faire les tours des crèches, s'assurer qu'on est sur les listes d'attente, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est absolument pas unique. L'homoparentalité, c'est quelque chose extrêmement extrêmement
Normal, hein.
normal. C'est même pas il y a même pas de question alors qu'en France, on continue à avoir des questions. Je remets dans le contexte. Ça fait 5 ans qu'on a quitté Paris. Et 5 ans, j'imagine et j'espère que qu'en 5 ans, énormément de choses ont changé aussi à Paris. Donc toute cette comparaison et ce sentiment que j'ai sur les droits et la perception, ça remet dans le contexte de
Tout à
Paris il y
fait.
a cinq
Il y a
ans.
5 ans, ouais, tout à
C'est
fait.
peut-être différent aujourd'hui.
Alors, ouais.
Ouais, bon.
Ouais, bon, il y a des choses qui, sur le, voilà, sur l'agenda parlementaire, qui ont été décalées. Mais on va voir, c'est tout ce qu'on souhaite, quoi, que les choses avancent. Donc aujourd'hui, tu as la nationalité américaine, Martin, c'est bien ça? Ouais. Alors, comment ça s'est passé pour obtenir ta nationalité? C'était quoi le process? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Ouais. Alors quand on fait une demande de visa pour venir aux États-Unis la première fois, c'est extrêmement c'est énormément de travail administratif. Quand on fait une demande de green card, je crois que c'est un autre niveau encore. Et en fait, tout ce travail de mise en place de dossiers, de témoignages, de récupérer des papiers français qu'on sait absolument pas comment récupérer, faire des traductions officielles. Tout ce travail, en fait, on doit le refaire une nouvelle fois. Au moment de la demande de nationalité. Donc c'est important de garder tous ces papiers, vraiment tous, tout le temps. Et la particularité quand on est marié avec un Américain ou avec une Américaine, c'est qu'on a la possibilité de demander la nationalité après 3 ans de green card. Quand on a une green card et qu'on est marié, qu'on n'est pas marié à un Américain ou une Américaine, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, on peut faire la demande, on qualifie pour faire la demande de naturalisation. Après, il va y avoir d'autres éléments juridiques. Je crois qu'il faut pas avoir commis des
Ouais, des
crimes.
crimes, des choses comme ça,
Voilà.
ouais. Et vous
Faut pas
avez...
fumer. Alors ça, c'est important. Il faut pas fumer de. Faut absolument pas acheter de joint.
D'accord, de
Faut pas
cannabis.
acheter de bœuf. Non. Et même éviter de le faire avec la carte médicale. Donc, en Californie, c'est complètement légal.
Ouais, comme à Washington,
Et quand même, ouais. Et ouais. À Seattle aussi, ouais.
Ça sent un peu souvent dans la rue, tu sais, quand tu te promènes, au début, tu es là, tu dis, mais c'est quoi cette odeur?
C'est le skunk. Ouais. Non, c'est. Ouais, on n'a souvent pas besoin de fumer d'ailleurs. On marche dans la rue et.
Ouais, exactement, ouais. Tu te rends compte des odeurs.
Et donc, c'est très important de ne pas fumer, de ne pas acheter, de ne pas être fiché. Surtout que l'administration de Trump fait très attention à ça. Parce qu'au niveau fédéral, c'est toujours illégal. Et ils peuvent l'utiliser contre toi.
Pour la petite histoire, justement, ce qui est assez surprenant, alors quand on ne connaît pas pour la première fois, parce qu'en France, on n'est pas habitué à avoir des magasins, justement, où ils vendent du cannabis. Alors ici, aux États-Unis, quand tu rentres dans un magasin, comme celui-là, tu n'as pas d'ATM, en fait. Tu as des ATM, pardon, à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas payer en CB, en fait.
Oui, parce qu'en fait, les transactions bancaires sont illégales
C'est ça.
parce que c'est toujours considéré comme étant une drogue et du coup, tout se fait en cash. C'est très bizarre.
Ouais, c'est très bizarre. Alors, donc tu vis aujourd'hui donc à Santa Monica, on l'a dit plusieurs fois. Fais-nous rêver un petit peu. Comment c'est la vie à Santa Monica?
C'est génial. Non, c'est vraiment. Ouais, non, c'est presque toujours le même climat toute l'année. Il fait jamais trop chaud l'été, il fait jamais trop froid l'hiver. Ce qu'il faut savoir pour les gens qui sont jamais allés à Los Angeles, c'est que Los Angeles, tant qu'on n'y est pas allé, on peut absolument pas imaginer Los Angeles. C'est une ville gigantesque. C'est une ville qui est constituée, j'aurais dû rechercher ça parce que je vais certainement dire des bêtises, mais c'est constitué de plus d'une centaine de municipalités. Donc, il n'y a pas cette notion de ville et de banlieue. C'est vraiment tout le comté, donc tout le département, c'est un département en France, tout le département et la ville. Et du coup, quand on habite à Santa Monica, on n'a pas du tout le même climat que si on habite à Studio City. On peut avoir des changements de température de 15-20 degrés, quoi.
Ah oui, Celsius,
120 minutes de... Ouais,
hein.
Celsius, Celsius.
Parce qu'en Fahrenheit, ça ferait pas beaucoup. Ah ouais.
Je crois que j'arriverai jamais les Fahrenheit.
Alors, tu travailles aujourd'hui dans l'industrie du cinéma à Hollywood, en tant qu'habilleur de plateau. Ça consiste en quoi exactement, ce métier d'habilleur de plateau?
Alors, c'est toujours le métier impossible à expliquer. Donc, habilleur de plateau, on n'a rien à voir avec les costumes. Les costumes, c'est costumier. Habilleur de plateau, on habille le plateau. Donc, en fait, on est décorateur. On
D'accord.
décore le plateau en l'habillant. Donc, l'habilleur de plateau, c'est celui qui reste sur le plateau pendant le tournage. C'est-à-dire que les décors, t'as plein de corps de métier, c'est énorme. Tu vas avoir des designers, des décorateurs, des constructeurs, toutes ces équipes vont se multiplier par 10. Des graphistes, donc parfois sur des décors, tu peux avoir une centaine de personnes qui interviennent sur le décor. Et bien sûr, tu peux pas avoir 100 personnes sur le tournage pendant qu'on tourne, c'est impossible. Donc, on a l'habilleur de plateau qui reste là pour tout le monde. Moi, je m'occupe de, je fais en sorte que tout soit beau, que tout fonctionne avec le script, avec le scénario, qu'il n'y ait pas de contresens, que la continuité soit respectée. Je serai certainement la personne qui se fait virer si je laisse un gobelet Starbucks sur un film médiéval. Voilà, j'ai beaucoup de peine pour Game of Thrones. J'espère que la personne est encore en vie. Mais typiquement, c'est ce genre d'erreur qu'on essaye aussi d'éviter. Donc, je suis constamment en train de travailler avec toutes les équipes sur le plateau. Ça va être très intéressant de voir comment le post-Covid va s'organiser. On sait toujours pas. On attend.
Alors, justement, toi, tu as un diplôme du Conservatoire libre du cinéma français. Est-ce que ça suffit pour obtenir un job à Hollywood ou le réseau, il est toujours très important pour travailler dans ce milieu?
Non mais personne ne m'a jamais demandé un CV. Je crois que j'ai peut-être envoyé un CV, mais c'était pas un CV, c'était une liste de production sur laquelle j'avais travaillé. Ils s'en foutent totalement des diplômes. Peut-être certains vont regarder si tu as un diplôme supérieur. Ici, ce serait l'équivalent de la licence. Donc le bachelor, on va regarder si t'as fait un collège ou si t'es
D'accord.
un postgraduate. Peut-être, mais en tout cas dans la déco, non, c'est absolument pas nécessaire. Sauf si tu es architecte et que tu dois dessiner des plans,
Bien
là c'est
sûr.
différent.
Et on commence par quel genre de boulot au début de sa carrière dans ce secteur?
Alors. Ça, c'est impossible à répondre directement, je suis désolé. Donc en fait, les diplômes ne servent à rien dans le sens où on ne va pas forcément les regarder. Par contre, c'est toujours enrichissant et c'est des diplômes qui m'ont permis d'être formé et d'avoir des automatismes. Quand je suis arrivé à LA, moi, je travaillais dans la tech industry et je travaillais sur la partie commerciale. Donc j'avais mis bout à bout plein d'entretiens avec certains de mes clients à l'époque. Donc, c'est des grosses sociétés de la Silicon Valley qui sont implantées à Santa Monica. Et en fait, je pouvais pas, j'arrivais pas à même me déplacer pour aller à ces entretiens, et il fallait absolument que j'aille sur un tournage. Et c'était vraiment plus fort que moi, il fallait que je retourne sur mes premières amours. Et c'était impossible de concevoir d'être à Los Angeles et de pas travailler sur un plateau. Je sais pas, c'est comme si t'es français, que t'es privé de fromage ou
C'était
de
l'appel.
vin, et voilà. Et on te met dans un champ avec du fromage, tu peux pas le manger. Non. Enfin, c'était vraiment viscéral. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite commencé à créer des liens avec tous les Français que je pouvais trouver.
D'accord.
Tous les Français qui travaillaient dans l'industrie trouvaient des raisons de créer des liens. Il y a un Français qui faisait des petites vidéos de temps en temps, donc je l'ai accompagné sur un ou deux tournages. Puis après, sur un de ces deux tournages, j'ai rencontré quelqu'un. Et au final, j'ai reçu un appel à minuit me demandant si j'étais dispo le lendemain matin à 5 h du matin pour faire quelque chose que je ne savais absolument pas ce que c'était. Et bien sûr, j'ai dit oui à tout. Enfin, c'est vraiment, il faut dire oui à tout, quoi. Je suis arrivé sur le plateau, on m'a demandé si je comprenais ce que je faisais. J'ai dit oui à tout. C'était Google Images, constamment. Je comprenais absolument rien du tout, parce que en plus c'est un jargon, quoi. Donc même si tu parles anglais, ça sert à
Bien sûr.
rien. Et comme ça, chaque jour, à la fin de chaque journée, on me demande de revenir le lendemain. J'ai fait tout un film comme ça. Et puis ensuite, le réseau commençait à faire son chemin. Donc assez rapidement aussi, je reçois un appel pour faire un tournage. Et la première question, c'est: est-ce que tu as déjà conduit un camion? Alors moi, bien sûr, oui, je sais conduire des camions. J'avais mon permis de conduire, 10 ans à Paris, quoi. Mon permis de conduire, ça faisait que 2 mois que je l'avais. Non, j'avais jamais conduit de camion, quoi. Donc je vais chercher mon camion. Il faut que j'aille chercher le décor qui est quelque part dans le studio Universal. Je mets l'adresse sur mon GPS. J'arrive avec le camion à 5 h du matin sur l'entrée principale. Là, on ne veut pas me faire rentrer parce que je sais pas quoi. Et je comprenais pas tout. Et j'étais: mais si, il faut absolument que je sois là. Je voulais pas me faire virer mon premier jour. J'ai réussi à convaincre tout le monde de passer. J'arrive à coincer le camion entre deux murs. Et là, je me rends compte que je suis pas du tout sur la bonne entrée, que Universal Studios, c'est gigantesque, que c'est d'ailleurs une ville en soi. C'est même pas Los Angeles, c'est une ville. Qu'il y a certainement, je sais pas, une quinzaine d'entrées différentes, que j'étais en train de rentrer dans le parc d'attractions avec un camion. pour chercher un décor. Donc, j'essaie de faire un demi-tour et c'est la première fois que je conduis un camion. Je suis un très mauvais conducteur. J'essaye de faire demi-tour. J'ai failli défoncer le grand mur avec le grand logo Universal Resort, je sais pas quoi. Voilà, j'aurais été certainement blacklisté de tous les studios. Mais bon, au final, j'ai réussi à trouver de. Tout s'est bien terminé. Je suis arrivé à
Ça
l'heure
s'est bien
et au bon
terminé.
endroit. Ouais. J'ai tué personne. J'ai rien cassé. Mais c'est non, c'est énormément de oui. Il faut être un yes. Faut dire oui à tout, quoi.
Dire oui à tout, la débrouille, comme tu
Ouais.
disais, le Google Images,
Ah.
le Google Trad, et d'essayer de comprendre ce qui se passe, quoi, ce que tu fais.
Ouais, alors Google Images, et ça, c'est vraiment. J'insiste dessus. Peut-être que je commence à vieillir, mais ma première expérience en immersion à l'étranger, j'avais 18 ans. J'ai passé un été à Dublin. Et pareil, mon anglais était pourri, mais vraiment pourri. En plus, c'était dans un quartier pauvre de Dublin avant que Dublin soit super intéressant, comme aujourd'hui. Et donc, c'était un accent hyper local, super dur. Donc, le peu d'anglais que je connaissais, c'était complètement impraticable. Je crois que j'ai passé une semaine, dans un bar à travailler, à ne rien comprendre. Et je faisais que répéter ce qu'on me disait au bar. Je voyais les gens, je répétais ce que les gens me disaient. Et j'avais des choses qui arrivaient par magie. Donc, on me donnait de l'argent. Hop, je reprenais l'argent, je répétais la chose au bar. Une chose, on me donnait des boissons. Et j'allais voir. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il suffit juste d'être sympa, de sourire, de dire oui à tout. Et bien sûr, de pas à tout, quoi. Il y a des choses qu'il faut pas faire. Mais il faut pas. Faut pas se poser de questions, quoi. C'est très simple. Et Google Images, c'est génial. Ouais.
Faut être volontaire et y aller, quoi, foncer, ouais.
Absolument.
Alors, donc, dans l'univers donc du cinéma à Hollywood, est-ce que vous avez un, est-ce que tu as un statut d'intermittent du spectacle ou ça n'existe pas? Comment ça se passe?
Alors non, il n'y a pas de statut d'intermittent. Et quelque part, c'est bien. Alors c'est pas bien parce que bien sûr le statut d'intermittent c'est absolument royal et je pense que tout le monde dans les autres pays rêverait d'avoir ce statut-là. Et d'ailleurs c'est un statut qui est constamment attaqué en France. Mais ici non, donc on n'a pas le statut d'intermittent. On a deux niveaux de production. Donc on a les productions syndiquées, union, et les productions non syndiquées, non union. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers non syndiqué, on va pouvoir commencer à travailler très rapidement, avoir des postes importants très rapidement, puisque c'est des plus petites structures, c'est des petits tournages.
D'accord.
Il y a beaucoup moins de réglementation. Donc, c'est-à-dire que ouais, tu peux travailler très facilement 7 jours sur 7. Tu peux faire des journées de 15, 16 heures avec une demi-heure de pause. Alors la légalité, c'est ouais, c'est plus ou moins légal, mais c'est comme ça. Mais du coup, ça te permet vraiment de rentrer et de travailler tout de suite. Donc moi, mes 2 premières années, j'ai vraiment enchaîné constamment. Je crois qu'il y a un été où je sortais d'un tournage, je prenais la voiture, 2 heures de route, et hop, je recommence un autre tournage, une no nouvelle journée de 15 heures. Et je fais comme ça 3 jours sans dormir. Mais du coup, c'est génial pour se construire son réseau. Il n'y a pas de statut, c'est-à-dire que tu vas signer un contrat, soit en tant que freelance, soit en tant que contracteur, ou parfois c'est une sorte de CDD d'une journée.
D'accord.
Et tout ça après, c'est le bordel au niveau de la déclaration des impôts, mais en soi, il n'y a pas de, est-ce que j'ai besoin d'avoir un statut de freelance? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un statut d'un... Tout ça, c'est très libre et en fait, ça rend les choses beaucoup plus faciles.
Bien sûr, flexible et dynamique aussi, hein.
Exactement. Exactement. Par contre, ça veut dire qu'après, quand tu as besoin de toucher le chômage, ça devient très compliqué et que tout le monde n'a pas accès au chômage. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Mais en soi, c'est quand on est jeune, qu'on a la pêche, qu'on veut monter très vite, c'est une bonne manière de faire un super réseau, de faire plein de tournages. Et après, il y a des conditions pour entrer dans le syndicat. Une fois qu'on atteint ces conditions, alors je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un cauchemar. Mais là, aujourd'hui, je suis syndiqué. Là, on arrive sur des projets qui sont beaucoup plus importants. Donc souvent sont les grandes séries, des grands films. On
D'accord.
a des équipes plus importantes. Il y a un respect du droit du travail qui est aussi là. On travaille plutôt 5 jours par semaine que 7 jours par semaine. On est vraiment payé en heures sup et on cotise pour le chômage, on cotise pour tout ça.
Ok.
Et en plus de
Donc plus
ça, on
encadré, ouais.
Ouais, c'est plus encadré, c'est beaucoup plus respecté. On a des taux horaires qui sont beaucoup plus importants aussi. On est plus protégé, hein, ça c'est important. Bon, les journées de travail sont toujours longues, hein, mais on est payé en heures sup.
Ouais. Justement, là, depuis le début de la crise du Covid, aux États-Unis notamment, donc l'industrie du cinéma, j'imagine que vous avez été bien impacté par cette crise. Comment ça vous a impacté, en fait, en tant que salarié?
Alors, ce qui est génial en Californie, c'est qu'on a un super système de chômage. Alors, super système de chômage, dans le contexte américain, ça n'a rien à voir avec la France, on n'est pas du tout sur du 80% de ton salaire, c'est le même taux pour tout le monde, c'est plus comme une assurance auto. Mais en tout cas, c'est là. On a la chance aussi d'avoir des démocrates au niveau fédéral qui ont passé une extension et qui ont gonflé le taux du chômage. Moi, aujourd'hui, je suis au chômage et mon salaire est maintenu à 50%, ce qui est énorme. C'est peut-être pas beaucoup pour la France, mais
Pour
ici,
la
c'est
France, mais
vraiment
pour ici,
important.
ouais.
Voilà,
D'accord.
là, je pense que on attend de savoir si notre chômage va être étendu, mais on est sur... En Californie, on a le droit à taux plein à 20 semaines de chômage. Voilà. C'est pas mal,
Ouais, ça fait
mais
cinq
c'est...
mois, ça fait... Ouais,
Ouais.
c'est... Pour les États-Unis,
C'est
c'est...
énorme. Ouais.
Ouais. Et ça, c'est uniquement l'industrie du cinéma ou
Non.
bien c'est aussi tous
Ça,
les
c'est
autres
l'État.
secteurs? C'est
Voilà. Donc
l'État.
ça, à partir du moment où on est sous un contrat de salarié.
D'accord.
Par contre, si on est indépendant ou freelance, c'est encore d'autres démarches
OK.
et c'est très compliqué à obtenir. Ils sont en train d'essayer de le faciliter parce que c'est très difficile. Donc quand on est non syndiqué, on a tendance à faire plus de contrats non salariés. Et du coup, c'est très dur pour les non syndiqués parce que là, il n'y a vraiment rien du tout, quoi.
Bien sûr. D'où
C'est
l'intérêt, justement, d'où la force de ces unions à Hollywood et l'intérêt
Exactement.
pour les salariés d'être syndiqués, justement.
Et en plus de ça, ce qui est génial dans le syndicat duquel je fais partie, c'est que comme sur les métiers d'équipe, on n'a pas de droits intellectuels sur nos, donc on n'a pas de royalties. Et du coup, c'est négocié avec les producteurs pour que un pourcentage des royalties que les producteurs touchent vont dans notre fonds de pension. Et ce fonds de pension, en fait, finance une retraite qui est, je ne sais pas ce que ça va donner, enfin, comme toutes les retraites aujourd'hui, mais
Oui, bien sûr.
aussi qui finance notre système de santé. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, j'ai une assurance santé qui est sécurisée jusqu'en janvier 2021. Et c'est une excellente assurance santé. Enfin, je paye 3 dollars de copay, j'ai accès à tous
Ah ouais.
les... Ouais, non, ouais, vraiment, ouais,
Ouais, c'est
c'est très
super, ouais.
similaire à la France, ouais.
Et tu peux en faire bénéficier ton mari John ou
Exactement,
et
ouais. Donc
d'accord. Et tes
John a...
enfants aussi, le jour où vous avez des enfants?
Exactement,
Ouais.
exactement. Donc moi, pour moi, je paye pas. Elle est complètement gratuite, ce qui est vraiment, c'est très rare aux États-Unis.
Ah ouais.
John a sa propre assurance via sa société, mais du coup, on peut goupiller. Donc, ça, c'est un peu technique, mais quand on est deux à avoir des assurances et qu'on est marié, on peut investir pour l'un des deux ou pour les deux. Pour obtenir une sorte de complémentaire. Donc, mon mari a son assurance primaire, qui est son assurance de travail, et mon assurance qu'il utilise en secondaire. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelque chose n'est pas remboursé par son assurance, ça prend la relève avec la mienne. C'est un peu
Ok,
technique, mais c'est intéressant, puisqu'on fait, on sauve, on économise énormément d'argent avec ce système-là.
ouais. Et oui, parce que le système de santé aux États-Unis, il peut coûter très, très cher si t'es
Incroyable.
pas ou très mal assuré.
Ouais. Et puis, il faut. Ça, c'est un bon conseil hein, pour tous les Français. Avant de venir aux États-Unis, faites tout votre check-up
Ouais.
en France. Regardez bien aussi le type d'assurance que vous allez avoir, le type de coût. Il faut éviter d'aller aux urgences. On peut aller dans des emergency care qui ont rien à voir avec les urgences, mais les urgences, ça peut coûter, enfin, ça peut ruiner quelqu'un, quoi. C'est inconcevable pour un Français. C'est important de comprendre même le fait d'attendre en salle d'attente et juste de voir un médecin pour 2 secondes, sans de vrais examens, tout est facturé. Donc, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ça peut être facturé. Et si t'as pas d'assurance, ça peut être très compliqué.
Est-ce qu'il y a des choses lors d'un tournage qui t'ont vraiment marqué en fait, où tu as vraiment vu des différences avec la France?
Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, j'ai pas travaillé énormément sur des tournages. J'ai fait beaucoup beaucoup de stages. J'ai eu un petit peu d'expérience, mais pas énormément. Par contre, ouais, culturellement, je pense que les Français sont un peu partout pareil, ce qui est un atout aussi. Hein, attention. Mais là, on était aux États-Unis, donc sur un tournage d'une pub pour une grande compagnie française de cosmétiques. Et c'était très rigolo parce que j'étais sur la partie déco, j'avais mon équipe, j'avais pas d'intérêt en fait à interagir avec le client. Puis les gens avec qui j'allais interagir, ça va être la production, mais la marque elle-même, le client, c'est pas forcément quelqu'un à qui j'ai besoin de parler. Donc j'ai pas interagi avec eux. La plupart d'entre eux étaient français, et la plupart d'entre eux ne savaient pas que j'étais français, donc c'est rigolo parce qu'ils avaient parlé français autour de moi et c'est rigolo quoi parce que notre boîte de production avait fait un super effort pour avoir une très belle table avec de la charcuterie, du fromage. Ah, mais bon, après il fait 40 degrés quoi, donc c'est hyper compliqué à gérer. Donc tu peux pas avoir tout le fromage, ça coûte très cher ici. Puis enfin bon, et t'as donc des Français qui allaient tout le temps à la table pour grignoter très fréquemment. D'ailleurs, ça choquait un petit peu les Américains. J'étais là, ah non, mais voilà, mais quand même, hein, ce fromage, non, c'est grand, enfin, c'est pas comme en France. Machin. Et c'était, enfin, toute la journée, enfin, c'était vraiment à se plaindre, de tout commenter. C'était vraiment rigolo. J'avais oublié à quel point on est tout le temps dans le jugement et dans le. Mais d'une manière assez mignonne
Ouais.
et assez sympa, parce que du coup, enfin, on se sentait pas non plus agressé, quoi. Et un autre truc qui choquait les Américains, c'est que les Américains, enfin, C'est un peu une caricature, mais c'est assez vrai. Au travail, on est au travail, on bosse, quoi. Il n'y a pas de pause. La pause, c'est une demi-heure pour bouffer et c'est toutes les 6 heures. Une journée de travail, c'est 12 heures, c'est pas 8 heures, c'est tac, tac, tac. Alors bien sûr, tu peux t'arrêter, tu peux aller aux toilettes ou tout ce que tu veux, mais il n'y a pas la pause clope de l'heure, quoi. Et t'avais l'équipe américaine qui était complètement en train d'halluciner toute la journée, genre, donc le client est reparti en pause clope. Encore une fois. D'accord. Donc, bon, on va attendre qu'ils reviennent de leur pause clope. Et à la fin de la journée, c'était, mais combien de pause clope ils ont besoin, quoi? Ouais, c'était très rigolo. C'était très, très, très. Mais c'est super bien passé. Tout le monde était hyper content. C'était hyper créatif, c'était sympa. Mais c'est
Ah ouais,
trop, trop, trop
effectivement,
bizarre.
culturellement, c'est un choc culturel pour les Américains de découvrir comment les Français, en tout cas le client était quoi. C'est assez marrant.
Oui, et j'ai des potes qui tournaient à Paris, des potes américains qui tournaient à Paris l'été dernier.
D'accord.
Moi, j'étais là-bas pour quelques jours, pour mes vacances, et du coup, je prends un café avec eux. Et mes potes américains étaient, bah, je comprends pas, parce qu'on a embauché une équipe française, mais après 8 heures, ils sont partis. Je dis, bah oui, c'est la loi. Après 8 heures, c'est fini. C'est vrai.
Ouais.
Nous, c'est
Ouais, dans
juste la
les deux
moitié de la
sens,
journée, quoi.
ouais. Excellent. On arrive à la fin de notre podcast.
Ouais.
J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Martin?
Ah, j'ai l'impression que j'ai déjà tout. Bah, que personne tombe malade. Mais ça, on se souhaite un peu
Ouais.
tous les uns les autres, ouais, que les projets familiaux, que le boulot
Ouais.
reprenne. Ouais,
T'as une date?
c'est tellement. Non,
Ouais,
on sait
pas
rien.
encore. Et par rapport aux manifestations,
C'est
comment
tellement
ça se passe à
frustrant.
Santa Monica?
C'est hyper frustrant parce qu'on a trop envie d'y aller. On est vraiment frustrés, mais
Ouais.
en même temps, j'ai des gens à protéger dans ma famille en termes de niveau du Covid. Donc, pour l'instant, on est hyper sérieux dans la manière dont on le fait. On a eu plusieurs manifestations à Santa Monica, on en a constamment à Los Angeles. J'ai des potes de mon syndicat qui ont fait partie de l'équipe qui ont repeint le sol aux couleurs LGBT, au Black Lives Matter. Et pas All Lives Matter, qui est en fait raciste. Mais là, c'était une manière d'inclure aussi les LGBT. Là, on a des posters à nos fenêtres. Non, je pense que c'est un mouvement qui est soutenu par la grande majorité des Américains, ce qui est vraiment génial. C'est intéressant aussi de voir comment ça se passe par rapport à la
Ouais.
France. On en avait parlé au téléphone, mais enfin, c'est presque tout un nouveau podcast, quoi, en soi. Mais ça, on le ressent au niveau même des droits LGBT, c'est-à-dire que aux États-Unis, on est dans l'affirmation de l'unicité de chacun. Chacun a le droit d'affirmer qui il est, son identité, etc. Et c'est hyper libérateur. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une expression, une libéralisation de la parole, ce qui permet, hein, toutes ces manifestations qu'on a aujourd'hui, alors qu'en France on est dans une intégration, assimilation qui est totale, qui est très poétique, mais en même temps qui est hyper, c'est hyper étouffant, quoi. On peut pas, c'est très dur d'être entendu, c'est très dur de s'exprimer quand on doit tous être la même personne, la même. Et on est en France aussi, on a cette notion qu'on est colorblind. Donc, le racisme n'existe pas parce qu'on ne voit pas en couleur. Et ça, c'est un peu hypocrite. Donc, ouais, c'est intéressant ce qui se passe ici. C'est aussi intéressant de voir les échos qu'on a en France avec Traoré, Adama Traoré. Et d'ailleurs, c'est Assa Traoré qui va venir ici pour recevoir un prix BET International Global Good Award pour son combat antiracisme en France. Donc en fait, ici, on commence à vraiment à reconnaître le mouvement antiracisme en France, ce qui est super intéressant.
Ouais, en baladant à Seattle, alors il y a toute une un quartier de Seattle qui s'appelle Capitol Hill, qui a été rebaptisé Chaz, donc au tout début, il y a quelques semaines, au tout début du mouvement, donc qui veut dire Capitol Hill Autonomous Zone, Free Zone. Et puis, alors depuis, il y a eu pas mal de polémiques, Trump qui a commencé à dire des manifestants qu'ils étaient des anarchistes sociodémocrates, puisqu'il faut savoir qu'ils ont quand même pris le commissariat en fait de ce quartier à Seattle. Et évidemment, comme quand Trump dit des bêtises pareilles, bon, comme il en dit tous les jours, mais comme il parlait de Seattle et de ces manifestants-là, j'ai décidé d'aller voir par moi-même en fait ce qui se passait dans ce quartier, si c'était des anarchistes, quoi, qu'est-ce qui se passait. Et en baladant dans le quartier, j'ai vu beaucoup de noms en fait des personnes qui avaient été tuées sous les violences policières aux États-Unis, forcément, mais aussi en France. Et plusieurs noms sont revenus comme ça sur les fenêtres, des bars, des habitations, de la salle de gym. Donc j'étais moi-même étonnée, en fait, de voir ça. Ouais.
Mm. C'est très dur, en fait, c'est vraiment très dur en France. Et ça... ça, nous, enfin moi, je le vois aussi hein, par rapport aux droits des LGBT, aux droits gays. C'est très très dur en France d'être une victime et de dénoncer son agresseur. Aux États-Unis, on a une liberté d'expression qui est totale. Elle est tellement importante que c'est même impossible de gérer un propos raciste ou un propos haineux. C'est d'ailleurs ce qui permet le Trump de dire autant d'énormité qu'on constamment. Par contre, aux États-Unis, moi, j'ai le droit d'affirmer légalement que Trump est raciste. Alors qu'en France, j'ai pas le droit d'affirmer que quelqu'un est raciste. Sauf si cette personne a déjà, quelque part, une injonction d'un tribunal français qui a confirmé que cette personne est vraiment raciste. Sinon, ça devient une diffamation. C'est la même chose pour l'homophobie, c'est la même chose pour les attaques policières, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est victime, c'est la même chose d'ailleurs pour le MeToo mouvement, c'est à partir du moment où on est victime et qu'on ne peut pas arriver avec un niveau de preuve, mais ça devient débile à ce niveau-là, ou que la personne a déjà été accusée et reconnue légalement par un tribunal d'être raciste, sexiste, homophobe ou je ne sais pas quoi, on devient la personne en fait coupable de diffamation. Donc c'est extrêmement ce que fait Assa Traoré, c'est incroyable, c'est un courage. Les gens, des Français, ne s'en rendent pas forcément compte, mais quand on travaille sur les droits... sur les droits civils en France, quand on a travaillé un petit peu là-dessus, moi j'ai beaucoup participé, j'avais une campagne hein, pour le mariage pour tous, donc c'est là où je me suis rendu compte que l'architecture du droit français rend les choses presque impossibles pour les minorités de pouvoir s'affirmer et de pouvoir dénoncer leurs agresseurs. Ce qu'elle fait, c'est incroyable, c'est extrêmement courageux, on regarde tout ce que la France est en train d'accomplir en ce moment depuis les États-Unis. On va découvrir énormément de choses de toute manière.
Merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté d'être mon invité. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci pour le temps que tu m'as consacré. Et j'espère que quand le Covid et tout ça sera fini, qu'on pourra finalement se voir pour un café, un verre de vin, un peu de fromage, peut-être un peu de... J'ai des très, très bonnes baguettes à Los Angeles. On a du très bon pain.
Ce sera avec plaisir. À bientôt, Martin. Merci.
À bientôt. Salut.
Depuis l'enregistrement avec Martin, l'Assemblée nationale en France a adopté début août le projet de loi bioéthique qui permettrait notamment aux femmes, à toutes les femmes, de recourir à la PMA. Cette réforme qui doit repasser devant le Sénat dans les mois qui viennent représenterait une avancée historique pour les droits et la liberté des femmes. À suivre donc. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Apple Podcast pour donner un avis, pour donner votre avis et donner des petites étoiles. Votre avis, il compte puisque c'est vous qui faites connaître le podcast. Je m'explique. Si vous mettez des avis et que ça vous plaît, d'autres personnes auront également envie de l'écouter et ça permettra au podcast de se faire connaître, tout simplement. Je vous dis donc maintenant à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt.